Philippe Vanleu, bonjour.
Bonjour.
Très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre troisième long, The Wall, qui sort le 27 septembre. Alors, on va suivre Jessica Combe, Jess pour les intimes, ouais. Qui travaille au US Customs and Border Protection. Elle est chargée d'arrêter les migrants qui tenteraient de rentrer aux États-Unis. Vous avez fait des études à l'American Film Institute.
Ouais.
Vous avez donc une expérience ou une vie, je veux dire, américaine, mais c'était plus quand même Los Angeles. On est loin de Tucson quand même. Hein.
Oui, oui, tout à fait. Ça n'a même plus grand-chose à voir, en réalité. C'était dans les années 80, donc il y a bien longtemps. Et effectivement, l'American Film Institute est quand même l'école qui m'a, après l'INSAS, qui m'a vraiment conforté dans mon approche de l'approche de mon travail comme chef opérateur. Et puis voilà, donc c'était trois années formidables de ma vie, mais ça n'avait rien à voir avec le sujet. En fait, ici, si je me suis lancé dans ce sujet, c'est parce que j'ai d'emblée, si vous voulez, au moment où Trump a été élu président, j'ai quelque part voulu traiter ce personnage d'une manière détournée, et qu'en plus de ça, depuis longtemps là, j'avais le désir, enfin pas le, c'est pas vraiment un désir, mais j'ai le besoin d'aller chercher, d'aller explorer le personnage du bourreau dans les circonstances de guerre et de génocide que j'avais traité auparavant. C'est quand même l'envers de la médaille. D'un côté, il y a la victime, de l'autre côté, il y a le bourreau. Et on peut pas éviter de réfléchir à ce personnage. Il est là, il existe. Et donc, il s'agit pas d'essayer de le décortiquer, de le comprendre. Il s'agit quelque part de l'explorer, comme je dis, pour, à mon sens, le démystifier. Et je pense que si... voilà, parce que c'est un personnage qui existe par la terreur, qu'il impose aux autres. Et c'est ce ressort-là qu'il faut essayer de briser. Je pense pas que le cinéma, malheureusement, puisse aboutir à un tel résultat, mais au moins une mise en garde, quoi. Ou en tout cas une autre fenêtre ouverte sur l'âme humaine. Et puis... il fallait que ça se passe pas dans un contexte de guerre. Il fallait que ça se passe dans un état de droit où la règle existe, où la morale est présente, et où malgré tout, quelqu'un qui est investi d'une mission, qui est récipiendaire d'une autorité, peut pousser les limites, peut regarder jusqu'où il peut aller trop loin sans risquer d'être réprimandé quelque part. Et en plus de ça, il faut bien admettre aussi que celui qui porte un uniforme et qui représente l'autorité, il est aussi formé, conditionné à appliquer une forme de je dirais pas de terreur systématique, mais en tout cas c'est un peu ça, c'est un peu à ça qu'on peut atteindre. Je veux dire, je lisais un article de Jonathan Little par rapport à son livre qu'il sort là maintenant sur l'Ukraine, et donc il parle de Boutcha et de l'attitude des Russes, des soldats russes dans Boutcha, et il dit en fait ils sont conditionnés, mais ils sont autorisés à dépasser toutes les limites. Il y a un truc qui voilà. Et je pense qu'effectivement, mais là encore une fois, il s'agit d'une situation de guerre. Ici, c'est plus délicat. Mais malgré tout, on voit bien que ce personnage existe et qu'il est dangereux, comme le sont les policiers qui craignent pour leur vie aussi.
La chasse à l'homme que l'on voit, qui est légale ou illégale, parce que finalement, Jess, elle la pratique déjà depuis son adolescence avec son ouais. père, et son père qui continue, son père ouais. qui a des clients. Quand on voit les clients, moi, ça me fait penser un petit peu à la fin d'Easy Rider. Et c'est un sport local. Vous avez eu l'occasion, je suppose, d'enquêter sur ce type de sport.
Oui, tout à fait. J'en ai même rencontré un gars comme le père. un type qui s'est établi dans un village qui est une douzaine de miles de la frontière, qui organise des camps. Il a un site internet. On peut débarquer chez lui, loger, camper, et puis il organise des tracks.
C'est fou.
Et c'est fou. Parce que c'est pas des animaux qui vont chasser.
On n'est pas au Kenya, hein.
Non. Et en plus de ça, alors, si vous voulez, la plupart du temps, j'espère, mon Dieu. La plupart du temps, il s'agit pas de leur tirer dessus, mais il s'agit de les attraper. Mmh. Et donc, une fois qu'ils les ont attrapés, ils les remettent au bord de pétrole. En réalité, ils n'en ont pas le droit. C'est considéré comme du kidnapping. Mmh. Donc, il devrait pouvoir être poursuivi pour avoir agi de la sorte. Et en réalité, non, il y a une entente cordiale avec les bords de patrouille.
On voit quand même les règles sont quand même assez strictes, parce que quand Jess, finalement, au début, outrepasse un peu ses droits, puisqu'elle n'est pas dans sa journée d'exercice, et donc elle est quand même réprimandée.
Elle est réprimandée, mais en même temps, elle fait partie d'un corps, et donc l'esprit de corps, ça existe. Mmh. Et surtout dans le cadre de groupes armés militaires représentant de l'ordre, cet esprit de corps fait vraiment la différence, si vous voulez. Et donc, oui, effectivement, elle dépasse les bornes. Oui, effectivement, elle pose problème à sa hiérarchie. Mais en même temps,
elle fait son boulot.
Et donc, elle fait ce qu'elle imagine est attendu d'elle. Et donc, elle a aussi, c'est pas comme si elle était malicieuse, comme si elle était méchante, comme si elle était mauvaise. Je pense que c'est une femme qui agit en espérant rencontrer les attentes qui sont placées en elle. En espérant même éventuellement les dépasser par son excellence.
Oui, mais il y a quand même cette rage que l'on sent chez elle, et la haine qui est là. On dirait quand même que c'est comme si elle voulait venger cette injustice, notamment de la belle-sœur chérie qui décède, et elle meurt alors que d'autres finalement sont bien vivants et outrepassent.
Oui, alors en même temps, pour moi, la présence de ce personnage qui est proche d'elle, qui est donc sa meilleure amie et qui est en plus sa belle-sœur, qui est atteinte d'un cancer, c'est pour elle, c'est une vraie personne. Alors que les migrants sont pas des vrais gens pour elle.
Il y a une omniprésence de Dieu chez Jessica, que ça soit le chapelet dans son van, le crucifix dans la maison, la Bible de sa mère, puis aussi cette réflexion, mon Dieu, mon maître, faites de moi ce que vous voulez, utilisez la force qui est en moi. Finalement, on se rend compte que même aussi chez les autres protagonistes, Dieu est aussi important. Que ça soit le Guatémaltèque qui dit que Dieu veille sur vous quand ils sont dans l'auto, que ça soit l'Indien quand il donne de la nourriture à ses migrants, c'est pas le même Dieu, non ?
Ah mais ça, c'est une très bonne question. Tiens, moi je suis pas sûr que. Je pense que Dieu est une représentation très personnelle pour chacun et que on l'invoque de manière, je pense, très très différente suivant les circonstances. Moi, je suis pas croyant personnellement. C'est par contre quelque chose qui me fascine, c'est la croyance. Je pense qu'elle est une force pour ceux qui l'ont, cette croyance et donc la foi. Mais je la trouve très perverse aussi, en réalité. Et je crois que... voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, je veux dire, tout le monde le dit depuis des centaines d'années, que de crimes commis en ton nom. Mais c'est vrai que c'est une constante. Je pense que, encore une fois, ça permet à un individu de fonctionner dans un cadre, dans un espace où il se sent à l'abri, où il se sent en confiance. Et c'est effectivement ce que fait Jessica Comley. Elle est pas du tout en train de jouer à être une brute. Elle veut être la meilleure à ce qu'elle fait. Est en plus une femme dans un groupe qui est très 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 majoritairement masculin. avec une attitude du corps des hommes très 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 péjorative vis-à-vis des femmes qui sont intégrées dans la force. Donc émerger là-dedans, exister en tant que femme et réclamer sa place, ça doit pas être évident tous les jours.
Alors Jessica, c'est devenu Vicky Krieps, luxembourgeoise qui est partie en immersion, je suppose quand même, oui. Pour avoir cette habitude, cet accent aussi, c'est énorme. Écoutez, comme travail.
Moi, oui, tout à fait, c'est un travail colossal. Moi j'étais complètement bluffé.
On peut dire aussi qu'elle est coproductrice. Puisque c'est oui, aussi oui, un engagement. Enfin, voilà. Je veux dire qu'elle est vraiment impliquée dans le projet. Quoi.
Voilà, exactement. Mais en fait, dès la première rencontre, quand on s'est rencontrés, moi j'avais vu Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. J'avais trouvé qu'elle était éblouissante. Enfin, j'avais vraiment été complètement conquis. Et donc j'ai pensé à elle à partir de ce moment-là. Et la première fois qu'on s'est rencontrés, moi, je lui ai, effectivement, on était d'accord de se dire, c'est pas comme si j'avais fait une grande découverte, qu'il fallait que ce personnage soit totalement américain, qu'on ne sente pas la pièce rapportée, si vous voulez. Et donc, ça a été un gros travail. Elle a fait un gros travail de préparation avec une coach américaine à New York pendant plusieurs mois. Elle se voyait une fois par semaine en séance de Zoom et elle travaillait le scénario et donc elles ont fourbi le scénario dans tous les sens. Elles l'ont décortiqué et donc quand elle est arrivée, elle était mieux préparée que je n'aurais pu l'espérer moi-même. C'était magnifique et en plus de ça, donc elle a passé plusieurs semaines à rechercher, elle est venue, elle s'est mise au contact des gens et tout ça pour être dans le creuset, tout ça. Et voilà, donc non, c'est un grand
travail. Parlez-moi un petit peu de sa droiture, ce droite comme un i. Elle se colle au mur. Est-ce que c'est symbolique comme attitude
Oui, non.
C'est elle qui l'a trouvé.
Ce qui est, oui, absolument. Ça fait partie du personnage. Et alors, ce qui est très étrange, c'est que moi, au moment où elle est arrivée, on a fait un essai de maquillage costume. Et donc, elle est apparue tout d'un coup dans son costume et elle était instantanément transformée. C'était déjà le personnage qui allait jouer devant la caméra. C'était vraiment très, très fort. Et moi, j'étais complètement waouh. C'est fantastique. J'étais heureux, quoi. Et c'est pas démenti, si vous voulez. Elle est restée dans ce cadre, dans cette conscience-là, tout continuelle, c'était très, très, très... Et en même temps, avec beaucoup de facilité, je me suis rendu compte qu'elle était tout de suite bonne. Donc pour moi, la première prise était toujours une prise importante. Il fallait qu'on puisse la réussir d'un point de vue technique et qu'on ne vienne pas me dire il n'y avait pas le point, ou il y avait ci, ou il y avait ça. Parce qu'elle, elle était bonne. Et elle était toujours bonne. Et c'était vraiment un régal. Mais en même temps, tous les autres autour d'elle étaient bien aussi. Donc, parfois, ici ou là, j'ai dû faire une remarque, corriger un peu. Mais en réalité, il y avait une vraie conscience du personnage de chacun. Je pense à Mike Wilson, comme je peux penser au garçon qui joue Kowalski. Je lui avais demandé d'être un vrai contrepoint de Comley et il a élaboré un personnage que je trouve très cocasse, quoi. En même temps un peu drôle aussi, mais voilà. Donc je trouvais ça, tout ça était vraiment très 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 finement ajusté, je trouve.
Parlons photo. Vous avez commencé dans le cinéma en tant que directeur de la photo, on en a parlé. Confier la photo à Joachim Philippe, comme avant à Virginie Sourdet, ça devait être un peu difficile pour vous en tant
que... Non, c'est pas pour eux, c'est pas pour moi que c'est difficile, c'est pour eux. Mais ça passe très vite. En fait, au départ, je les sens un peu inquiets d'être là comme chef-op avec moi qui les regarde. Et en réalité, parce qu'évidemment, Les chefs op ont traditionnellement, on doit y aller. Les chefs op ont traditionnellement un peu joué de l'alchimie de leur métier, quelque chose qui est comme ça un peu abstrait, évanescent, qui n'a pas de prise pour qui ne connaît pas vraiment intimement le travail de la lumière et de la photographie. Quelque part, je pense que d'une part, je suis capable de leur fiche la paix quand ils ont besoin de temps pour se préparer, parce que je sais ce qu'ils font, et je comprends ce qu'ils font. Et d'autre part, parce que je comprends ce qu'ils font également, je peux les diriger comme je dirige un comédien. Et en tant que chef op, on est souvent très seul sur un plateau. C'est-à-dire que on gère beaucoup de choses et beaucoup de, on gère du temps, on gère des moyens, on gère, voilà, un plateau, ce sont des gens qui vont et qui viennent, qui ont besoin d'avancer, qui sont prêts parfois, et que voilà, il faut pouvoir être prêt aussi. Et on est souvent très seul parce qu'il n'y a pas une vraie compréhension de ce métier.
Quelques mots sur la musique. Leo von Kohenberg, c'est le Lionel de Girls in
Hawaii. Oui, absolument.
Expliquez-nous cette rencontre quand même.
Ah bah écoutez, ça a été fait par son manager, qui est un ami de, ou une connaissance en tout cas, de Guillaume Malandrin, mon producteur, et qui était donc, c'est Pierre Van Brakel, me semble-t-il, je corche peut-être un peu son nom et je m'en excuse, et malheureusement il est décédé l'année dernière, mais donc ça s'est fait par l'entremise de ce monsieur, et c'était, pour moi c'est très compliqué hein, à chaque fois, le travail de la musique est une recherche pour laquelle je trouve que les mots sont très pauvres. Et donc, quand en plus on n'est pas musicien soi-même, la seule chose sur laquelle on peut vraiment s'appuyer, c'est son oreille et son goût. Donc, essayer d'emmener quelqu'un qui prend les choses là où elles en sont, c'est-à-dire que dès il y a déjà un montage et donc c'est ça qu'ils regardent, alors que moi j'ai toute une histoire que je traîne avec moi par rapport au projet, et j'ai toute une idée, toute une série de réflexions que je me suis faites sur plutôt ceci, pas cela ou n'importe. Donc c'est un vrai travail, et en plus avec Lionel il y a eu un problème au début, c'est que j'avais un morceau de rock blanc. Rock rap blanc, je sais pas comment il faut dire, urban rock, par un type qui s'appelle Ryan Oakes, dont on entend d'ailleurs les premières mesures de sa chanson dans le tout début du film. Et donc cette référence là je l'ai donnée à Lionel, sauf qu'il existe pour le même titre deux versions totalement différentes, et que c'est Guillaume qui s'est occupé de lui transmettre le clip, et il a envoyé le mauvais. Donc pendant 15 jours il m'a envoyé du matériel et on se comprenait pas du tout, et puis un jour je suis monté à Bruxelles justement vraiment pour le voir, pour passer la journée avec lui, pour qu'on crève l'abcès, pour qu'on sache où on va. Et on s'est rendu compte tous les deux instantanément qu'il y avait une bévue. Et donc voilà, on a repris on est remonté sur notre cheval et on a fait un bout de chemin formidable ensemble.
Une dernière question. Être roi, en fait, c'était un projet antérieur finalement à The Wall.
Non, en fait, c'est vraiment, ils sont surgis tous les deux de ma propre imagination, et être roi est sorti de, j'arrive dans deux secondes, être roi est sorti d'une rencontre avec Dominique Besséard au moment où j'ai présenté
mon voisin production.
Voilà.
Et c'est comme ça que vous remerciez Dominique de sa patience dans le générique final.
Oui, sans doute. Oui, mais aussi parce qu'il est très actif et qu'il est là et qu'il donne des coups de main et qu'il connaît des gens et que ça permet quand même de... Voilà.
Philippe, un grand merci en tout cas. On rappelle The Wall le 27 septembre. Merci.
Merci.